Interview.
2 jours.
Monsieur Sangaré, moi je suis là pour vous écouter. C'est quoi votre histoire à vous?
Frérot, je t'ai donné le compte pour que tu travailles.
Ça sonne pas.
Il faut travailler, frérot. On n'est pas venu en Europe pour jouer.
Fais le tour.
Toi, c'est pas Emmanuel, toi.
Effectivement.
Pas eu, là.
Ouais, c'est pas lui.
Souleymane, Mouriani.
Barrière.
Moi, j'ai besoin des sous.
Demain, je te paye à 13h.
C'est pour moi. Courage.
Merci beaucoup.
Vous voulez un coup de main?
On va doucement.
Souleymane, c'est pas le 22 février, c'est le 19 février. Entretien, on coûte 2 jours. À Dieu, on maîtrise l'histoire. Il y aura
France, Ibrahim.
Il y a un problème avec le code, là.
Mon ami, tu es toujours encore.
D'avoir un compte.
Ça va, t'es pas trop fatigué?
115 Paris, bonjour.
On s'est prévoit une place pour ce soir, s'il vous plaît.
Faut pas stresser, reste optimiste.
S'il vous plaît, ne me pousse pas. Allez, au lieu de me pousser, si vous me passez la commande.
T'as pas le droit de frapper chez moi.
Tu as peur pour l'entretien?
Comment ça, tu me dois rien? Je veux mon argent.
T'as pas à avoir peur. Tu sais ce que tu as vécu.
Et si on me prenne pour un menteur?
Non, mais toi, t'es pas un menteur. Tout ira bien.
Bonjour, ici Hervé Bois et c'est l'heure de l'interview avec au studio Xavier Sirven. Bonjour.
Bonjour.
Xavier, vous êtes ici pour nous parler donc de ce prix du César meilleur montage pour le film Une histoire de Souleymane, qui a été primé donc cette année en 2025. Pour vous, quelle a été cette émotion à l'écoute de votre nom lors de cette cérémonie?
Ça n'arrive pas tous les jours. Il y a plusieurs choses. C'est déjà le film, là, l'histoire de Souleymane, c'est une aventure très singulière parce que c'est un film qui s'est fait dans une toute petite économie avec une toute petite équipe et avec une équipe dont, avec qui j'ai déjà travaillé sur le film précédent du réalisateur, Boris Lochkine, qui s'appelait Camille, qui était sur une photo reporter qui s'appelait Camille Lepage, qui a été tuée en Centrafrique à 27 ans. Et on avait fait ce film ensemble, on était partis en Centrafrique. Et donc là, c'était une autre aventure avec une partie de la même équipe. Et il se trouve que pour les Césars, là, une grande partie de l'équipe était nominée, puisqu'on avait sur le film toutes les nominations qu'on pouvait avoir, acteur, son, montage, scénario, réalisation, etc. Donc c'était assez génial de se retrouver là-bas en groupe. Et comme l'équipe est petite, toute l'équipe était là. Donc on était une vingtaine. Donc ça, c'est pas juste une aventure personnelle quand je me retrouve là-bas. C'est on arrive en bloc, quoi.
Il y avait aussi une participation au Festival de Cannes. Hein.
Et le film avait été sélectionné au Festival de Cannes et a eu un accueil hyper chaleureux et enthousiaste, il est reparti avec plusieurs prix et c'est sûr que la manière dont Cannes a reçu le film a déclenché aussi tout le reste. Et il se trouve que ce film, parce que je pense pas que tu es au courant, on l'a monté en partie ici.
Si, je l'avais entendu lors de cette soirée qui s'est déroulée donc, au cinéma Le Pistel, pour justement fêter ce trophée qui a été démontré. Moi-même, je l'ai porté, il fait 3,6 kg, hein, j'ai lu. Voilà.
C'est assez lourd et beaucoup plus joli que ce que je croyais, ouais, tout à fait. Donc oui, comme on l'a monté ici et que Boris, le réalisateur, il est venu, il a passé 2 mois et demi ici, il a adoré dit. On était venu présenter le film quand il est sorti en salle et ça me semblait hyper beau et assez juste par rapport au projet de venir aussi fêter ça avec tout le monde ici et y laisser le César au cinéma.
D'autant que ce film, Une histoire de Souleymane, était en majeure partie monté sur 10.
Voilà, c'est ça. On avait, comme on se connaît bien avec Boris, et que lui, c'est un voyageur, il aime bien se décloisonner. Il avait très envie de sortir de Paris. Comme le film se passe notamment à Paris, c'était une bonne opportunité. Et donc, on a loué un appartement ici, pas très loin du cinéma, où on a installé toute la salle de montage. Et on a hyper bien travaillé. On avait une vue sur le Mont Aiguille. Et donc, le midi, on pouvait faire la pause à la rivière ou au soleil. Et c'est vrai que travailler sur un film aussi intense qui se passe dans les rues de Paris, sur la livraison, et dont l'idée, c'était vraiment de mettre le spectateur dans le même état qu'un livreur et d'être dans un état de stress tout le temps. Pouvoir avoir des moments où on était ici dans la Drôme, avec un contexte beaucoup plus favorisant, ça nous a aidé aussi à pousser peut-être encore un peu plus loin les curseurs.
Ce montage était déjà prévu par vous avant même le tournage. Et dans ce cas-là, est-ce que vous avez assisté à quelques tournages
de ce film-là? Écoute, comme on se connaît bien avec Boris, ce qu'on avait fait sur le film précédent, j'étais parti en Centrafrique avec mon fils et ma compagne qui avaient écrit le scénario, et on avait installé là-bas, parce qu'il n'y a rien de structure de cinéma, donc on avait installé tous les labos de post-production et montage, et j'avais monté sur place pendant le tournage. Là, sur celui-ci, c'était un budget un petit peu plus restreint, et on s'est dit avec Boris que, comme on avait peu de temps de montage avec le budget, et que surtout on commençait le montage assez tardivement, c'est-à-dire en janvier, et en fait, en France, le cinéma français est très structuré sur Cannes et sur les délais d'envoi des films à Cannes qui se font là en ce moment. Maintenant, la deadline va être fin avril. Et donc, quand on veut rentrer dans ce planning-là, il faut avoir une version de montage qui soit déjà terminée. Donc nous, on a commencé en janvier et on s'est dit que je ne commençais pas en amont. Par contre, je regardais les rushs tous les jours. Ce qu'ils avaient tourné, et on faisait des points réguliers sur qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui fonctionne moins bien, comment ça se passe avec les acteurs et comment petit à petit on pourrait, au fur et à mesure du tournage, déplacer certaines choses. Mais sinon, le montage a commencé le jour 1. Boris était là, il n'a pas lâché la salle de montage jusqu'au bout. Et on a monté non-stop pour pouvoir un peu tenir ce rythme-là.
Ce montage obéit à quelles règles? Il y a la narration, certainement.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme enjeu?
Il y avait sur ce film-là, on avait eu plusieurs discussions avec Boris. On cède parfois pour un film en regardant les films des autres, en se disant « Ah tiens, on rentre plutôt dans cette dynamique-là ». Et on avait pas mal discuté de films américains, des frères Safdie, qui sont deux cinéastes indépendants américains et qui ont fait, leurs deux derniers films, c'était Good Times et Uncut Gem, qui sont des films assez radicaux pour des films indépendants parce qu'ils poussent très loin les curseurs, soit de la narration, soit de la mise en scène. Et donc, on s'était dit, pour le film, l'histoire de Souleymane, il y a quelque chose de fort et qui va se marquer au montage. C'est qu'en fait, on ne va pas essayer de déployer des scènes en ayant toujours un point de vue en champ contre champ qui découperait l'espace où on pourrait toujours bien visualiser ce qui se passe. Mais on va plutôt travailler par bloc qui se télescope. Donc, c'est un fragment pris dans l'action qui va se télescoper avec un autre fragment. Et donc, ça va être moins d'écrire l'action que vraiment chercher les ruptures et un aspect très musical du film, puisque l'intention de Boris, c'était qu'il n'y ait pas de musique sur le film, ce qui est très rare dans le cinéma, qu'il n'y ait pas de musique. La musique aide beaucoup à faire passer les émotions ou aussi à adoucir les moments un peu moins réussis. Et donc, quand il n'y en a pas, ça tient que aux acteurs et à la narration et donc au montage. Et donc, le montage, fallait que le montage soit très, très rythmique. Je ne veux pas dire par là qu'il soit rapide, mais qu'il soit musical. Et donc, c'était ça qui a décrit tout le montage derrière.
Uncut Gems, c'est ce film qui traite des péripéties d'un joaillier.
Tout à fait, exactement. Oui.
un film qui m'a beaucoup marqué,
ouais.
Et qui déroute, hein, complètement. Justement, cet aspect déroutant, ça c'est aussi cette prise en compte pour peut-être encore plus influer sur la narration et l'action d'une scène, par exemple.
Bah, c'est ça. Nous, on s'était dit la leçon un peu d'Uncut James, qui est un film qui n'a pas grand-chose à voir avec Suleiman, si ce n'est le parti pris que chaque scène du film va essayer de pousser très loin les curseurs. Donc l'acteur, il va se mettre dans un état pas possible. À la caméra, c'est beaucoup, beaucoup de suivi. Et donc, on va être comme non-stop collé à lui. Et comme lui, il passe son temps à faire des allers-retours, la caméra va beaucoup bouger. Et à la musique, il y a énormément de musique sur Uncut Gems. Ils sont allés très loin. Et nous, on s'est dit la même chose, que ce livreur, pour pouvoir vivre intensément ce qu'il vit, on va comme pousser la manière d'être collé à lui. C'est-à-dire, on ne va jamais lui laisser le temps de respirer. Et on va avoir une caméra qui ne... Alors, ça a un petit peu changé en cours de route, mais comme si la caméra ne pouvait voir et faire que ce que l'acteur voit et fait. Elle ne va jamais se retrouver en haut d'un bâtiment pour voir un plan large. Elle va être comme si elle avait des œillères, comme un cheval qui aurait des œillères et qui ne voit que l'action.
Je reviens un peu aussi sur d'autres montages, hein, qui ont été effectués. Ouais. Il y en a un en cours, Je ne suis pas avec vous. Et puis d'autres, donc il y avait Tirailleurs en 2022 avec Omar Sy, Nous étudiants, Soyez libre, Camille. En fait, tous ces films sont des films de société, en quelque sorte. Il y a aussi une revendication dans les thèmes abordés dans ces films, à laquelle vous prenez part aussi.
Tu veux dire, est-ce que moi, les choix des films que je fais sont liés avec ça? Alors, c'est très clair que j'ai essayé au départ, quand j'ai commencé à travailler sur des films, dès que ça ne nourrissait pas une profondeur quelque part, qui soit politique, écologique, spirituelle, je ne savais pas quoi faire dans les films. Et donc, quand j'ai compris ce truc-là, effectivement, je ne fais que des films qui sont des engagements et qui sont des rencontres avec des réalisatrices et des réalisateurs très engagés dans leur sujet. Et moi, j'ai envie d'être déplacé, d'être complètement embarqué ailleurs, quoi. Je ne suis pas bon quand je ne peux pas m'investir beaucoup.
La comédie, c'est un sujet que vous n'abordez pas tellement.
Je l'ai fait avec un cinéaste génial, avec deux cinéastes. Un cinéaste qui s'appelle Antonin Perejatko, qui est très politisé et très comédie, très burlesque. Et on a fait un film vraiment génial qui s'appelle La loi de la jungle. Avec McCain, l'acteur, où c'est un stagiaire envoyé en Guadeloupe pour créer une station de ski. Et donc tout est absurde, il y a Pascal Légitimus dedans, et c'est vraiment une comédie très, 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 très bizarre et très grinçante, très punk. Et j'en avais fait un autre qui s'appelle Willy Premier aussi, qui est une comédie très, très singulière. Ouais. Mais effectivement, c'est des comédies, quand il y a les comédies, il faut aussi qu'il y ait quelque chose un peu profondément là.
À l'image du coût, hein, je crois que c'est 1 400 000 euros pour le tournage la production de
Suleiman,
l'histoire de Suleiman. Les films à laquelle vous avez participé tablent sur ce type de budget également.
C'est, disons que pour un film... pour un film qui vise à faire une sortie en salle... et à payer les gens qui travaillent dessus. 1 million devient un budget un peu minimum. On peut faire à moins, j'ai fait des films où c'était moins, mais c'est vrai que c'est des économies qui sont très difficiles, où du coup, les gens travaillent beaucoup gratuitement. 1,4 million, Boris, il a pu faire ça et payer bien les gens, justement parce qu'il a décidé de limiter le nombre de personnes. Et d'accepter que du coup il y aurait moins de jours de tournage, mais que les gens seraient payés bien et tous les jours. Sinon, c'est ça. C'est, disons qu'un film classique, c'est un peu plus difficile en ce moment et probablement ça va l'être de plus en plus, mais un film à peu près normal, ça serait 4 millions.
Est-ce que les films à petit budget exacerbent les compétences, les talents de chaque intervenant?
Alors, ça exacerbe à un endroit, mais ça exacerbe aussi les tensions. Et donc, du coup, ça fait beaucoup un film avec un petit budget. Enfin, moi, je vois dans mon expérience que du coup, le réalisateur qui a une posture de pouvoir sur un film, quand il y a peu d'argent, il demande beaucoup plus pour beaucoup moins. Et il y a une tendance à... Ça peut être fait de manière très bien, mais il y a aussi une tendance à comme une sorte de position un peu pas évidente, qui serait comme une sorte de chantage de pouvoir, qui est que bah moi, je porte ce projet depuis tant d'années, il y a peu d'argent, s'il te plaît, travaille plus. Et donc, ça, c'est très singulier, là, le rapport au cinéma, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de films qui se font et beaucoup de gens pas très bien payés. Ou pas assez payé, ou on te paye après coup. Donc je ne sais pas si ça exacerbe. Là, il se trouve que pour le film de Boris, oui, parce qu'il y a un respect des gens qui travaillent. Mais j'ai aussi fait des projets où je suis sorti en me disant « Mais plus jamais je fais ça parce que je travaille beaucoup et je reçois rien. » Donc c'est vraiment un enjeu de pouvoir. Là, on est sur le cinéma, il y a argent et travail et le pouvoir est là tout le temps.
Ça serait un autre sujet d'aborder justement cet aspect financier et de concours hein, voilà. des participants dans tout projet film, de film. Et pour aboutir à cette profession de monteur, vous êtes aussi passé sur tout un panel d'activités autour du cinéma. Hein, et donc ça permet de nourrir aussi cette compréhension d'un film et peut-être aussi d'amener quelques amélioration ou prévoir des impératifs.
Oui, il y a cette phrase de Pier Paolo Pasolini que j'ai toujours adorée. C'était un Pasolini, donc un poète et cinéaste. Et quand il s'est mis à faire des films, Pasolini disait que pour pouvoir faire un film, il avait besoin de comprendre ce que faisait tout le monde. Et donc, il fallait qu'il comprenne chaque problématique de chaque technicien à l'image, au son, etc., évidemment avec les acteurs, et c'est une fois qu'il avait compris ça qu'il pouvait être le plus créatif. Et c'est vrai que moi, pour le coup, je l'ai appliqué à fond, c'est que j'ai fait du son, j'ai fait de l'image, j'ai fait de la réalisation, des scénarios, et je sens que ça nourrit effectivement mon travail de monteur, de connaître. Il y a plusieurs choses, c'est que je sais jusqu'où je peux aller, et je sais aussi que parfois, les techniciens, moi le premier, je peux l'avoir, on a une petite tendance à faire ce qu'on sait faire. Et quand il y a quelqu'un qui te dit bah, « tu peux aller plus loin parce que je sais que c'est possible », du coup, ça pousse le technicien à aller plus loin. Et moi, j'adore quand un réalisateur sait monter aussi, parce que du coup, ça me pousse à sortir de ma zone de confort.
Et justement, ces moments de montage se font aussi avec le metteur en scène, mais peut-être aussi d'autres intervenants, les producteurs peut-être également.
Oui, tout à fait. Alors sur Souleymane, c'est un producteur par exemple, avec qui on a eu plusieurs films, notamment le précédent film de Boris Lochkin, Camille. Et donc, on se connaît. Et lui, c'est quelqu'un qui adore le montage. Donc, c'est vrai que c'est un allié qui va venir régulièrement. Et il va comme placer le curseur pour nous dire « Ok, on est dans la ligne ». On peut aller plus loin, on est allé trop loin, et on a vraiment besoin d'un regard. Nous, comme on est intensément centré sur ce qu'on fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne faire un peu contrepoint.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5,
101.7,
FM.
Thank you.
Et donc, grâce aux techniques et aux progrès techniques numériques, notamment, le montage a pu s'opérer à Die, avec un cadre plutôt idyllique, hein, loin du tumulte parisien. Et pour cela, c'était une réelle nécessité de vous couper de ce brouhaha.
Je vois que... Alors, moi... Je vis ici et ma famille est ici et donc je monte souvent à Paris pour aller faire du montage. C'est quand même nettement mieux de pouvoir le faire avec sa vie de famille et de ne pas être coupé en deux. Donc c'est pour les films, je demande maintenant, quand c'est possible, en tout cas j'essaye au maximum de le favoriser. Pour l'histoire de Souleymane, il se trouve que ça a été vraiment payant parce que ça, en ayant un contexte favorisant, ça nous a permis d'être encore plus radical dans un contexte moins favorisant qui est celui du film. Quand on faisait les sessions à Paris, je sortais des salles de montage et c'était hyper dur de marcher dans Paris parce que j'avais, entre ce que la charge émotionnelle du film et du son que j'avais eu dans toutes les oreilles, parce qu'on vivait quand même dans les klaxons, la rue et non-stop. Et du coup, en ressortant à Paris, c'est vrai que c'était j'ai eu plusieurs semaines vraiment dures d'être agressé tout le temps. C'est comme si ça avait rajouté un filtre où j'étais encore plus attentif qu'avant à la violence urbaine. Ouais.
Il y a cette part de silence donc, qui a été bénéfique hein, pour ce montage d'une histoire de Souleymane. Et pour le montage, quelle est la part de travail du silence justement à traiter des images? Puisque j'imagine qu'il y a l'image à monter, mais est-ce que le son est déjà présent?
Alors, chaque monteur et monteuse est très différent par rapport à son rapport au son. Moi, comme je viens et de la radio, et de, parce que je me suis occupé d'une radio pendant longtemps, et que j'ai fait de la prise de son et du montage son, en fait, j'aborde le montage en considérant image et son tout de suite. Donc ça veut dire que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup le son. Donc j'ai plusieurs disques durs avec beaucoup, beaucoup de sons, des sons que j'enregistre moi, des sons que je récupère d'autres films, d'autres ingénieurs du son. Donc j'ai des banques d'ambiance et d'effets. Et je construis l'univers du film dès le montage. Donc là, sur Souleymane, j'ai quelques pistes images et j'avais une soixantaine de pistes son où je travaille toutes les ambiances, je vais chercher les klaxons, etc. Et parce que cette dynamique-là, comme je monte musicalement, le plus j'ai travaillé le son, le plus je vais pouvoir me permettre parfois de faire un grand vide. Et puis après, repartir sur le son. Et ça a un avantage, c'est qu'on est tout de suite dans le son du film. Et le deuxième avantage, c'est que quand l'équipe son arrive pour travailler le son du film, c'est comme si j'avais déjà fait tout ce qui était facile et ça les oblige à penser encore plus différemment.
Donc, il y a cet aspect de fond sonore et le dialogue, ça, c'est un travail avec le preneur de son.
Les dialogues sont enregistrés pendant le tournage. Ça arrive très souvent que les dialogues en cours de route se modifient pendant les prises, soit parce qu'il y a des improvisations, soit parce que l'acteur, l'actrice ou le réalisateur, réalisatrice se disent tiens, mais ça sonne pas très bien. Et ça arrive aussi que pendant que je regarde les rushs, pendant le tournage, moi j'ai des remarques sur les dialogues pour qu'on puisse modifier quelque chose. Et pendant le montage, ça arrive très souvent qu'on modifie les dialogues, donc qu'on se dise « Ah, mais là, en fait, ça devrait dire plutôt ça. » Bon, bah, on va réenregistrer, on va refaire venir l'acteur et on va réenregistrer des voix. Et donc, le montage, c'est vraiment la narration. Donc, on va s'occuper à tout ce qui est le sens des dialogues et le sens des actions. Et puisque l'avantage du numérique, c'est qu'on peut faire beaucoup pendant le montage, mais je pense que c'est tout le monde, tous ceux qui font du montage, on ouvre énormément la case de réécriture des dialogues. Donc en attendant que les voix arrivent, on les enregistre nous-mêmes avec les téléphones, on les met dans la piste, puis on demande à l'acteur de nous envoyer des mémos audio qu'on intègre dans le montage. Donc les dialogues bougent beaucoup, beaucoup au cours de route.
Pour votre carrière, vous avez beaucoup produit, vous avez énormément produit de courts-métrages et également des émissions pour la télévision. C'est une manière d'apprendre au-delà de l'école de formation. Il y a l'aspect technique, j'imagine, à l'école. Mais après, la poésie, on la trouve sur ses productions directement.
Eh bien, il y a... Alors, c'est vrai que c'est pas évident à comprendre pour quelqu'un qui ne fait pas de montage, mais c'est sûr que chaque monteur et monteuse ont leurs notes. Et la même personne ne ferait pas le même film. Ça raconterait probablement la même chose, mais pas du tout de la même manière. Et donc, cet outil poétique ou cet outil de singularité, il y a ce qu'on porte en nous et ce qu'on a nourri de lecture, visionnage, film, balade à l'extérieur. Et effectivement, il y a aussi beaucoup comment, là pour le coup, très de la manière vraiment de l'artisanat, comment peu à peu on a façonné notre manière de regarder et de raconter des histoires. Et ça, c'est vrai que c'était un monteur génial qui s'appelle Guy Lecorne, qui a fait énormément de films, qui m'avait dit, quand je commençais à faire ça, je lui demandais un peu comment c'était passé pour lui, et il m'avait dit, moi j'ai monté tout ce qu'on m'a proposé, parce que je voulais comprendre comment on crée avec des images. Et petit à petit, j'ai choisi mes projets de plus en plus, mais d'abord il a fallu que je pratique mon outil. Et c'est vrai que les courts-métrages servent aussi à ça, ça sert à rencontrer des futurs réalisatrices et réalisateurs qui feront des longs un jour et avec qui on va travailler, mais ça sert surtout à expérimenter.
Et lors de ces séances de montage, il y a un dialogue aussi, il y a beaucoup de dialogue qui s'établit entre vous, le metteur en scène, le cinéaste, ou le producteur, et avec des échanges de vision.
C'est très singulier un montage, parce que c'est un des rares endroits où on passe notre journée entière dans une toute petite salle avec quelqu'un avec qui on parle tout le temps. Donc c'est sûr que sur un montage, je vois plus la personne qui fait le film que ma propre famille. Et on est intensément concentré sur un troisième terme qui est le film, où on essaye de mettre le plus de ce qu'on peut. Et ce travail-là génère beaucoup d'angoisse parce que c'est très difficile de faire des films. Et surtout, il y a tellement de raisons de rater un film. que quand on commence le montage, il y a beaucoup, beaucoup d'angoisse de la part de la personne qui porte le projet, de chercher à amener le film à des endroits qui n'étaient pas prévus. Et donc, on parle, c'est vrai, un peu non-stop, en se confrontant beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de confrontations. Ah, mais moi, je pense que ça devrait raconter ça. Mais moi, je pense que, en fait, ça raconte ça. Oui, mais si ça, mais ça. Et donc, ça peut générer beaucoup de tensions. Il y a très souvent un conflit qui, en général, est plutôt positif. Mais c'est des lieux comme il y a des... C'est vrai qu'il y a des... Souvent, c'est comparé à des cabinets de psy, parce que en travaillant le film, comme moi, en tout cas, les films que je fais, c'est des films qui sont portés par des personnes qui mettent beaucoup d'eux-mêmes, le film est souvent un miroir de la personne et donc est souvent l'occasion de parler de la personne. Donc on parle beaucoup du film, mais aussi beaucoup des enjeux personnels de la personne. Donc il y a une part psychologique immense dans le montage, ouais.
Et puis c'est la confrontation aussi de perceptions différentes, hein, voilà, de ce qui entoure chacun. Qu'est-ce qui vous a amené, quel est le film qui vous a peut-être marqué à vouloir faire du cinéma?
Moi, je viens d'un milieu qui n'a rien à voir avec le cinéma, ou l'art en général, qui n'avait pas beaucoup de lien avec la culture. Et donc, j'ai découvert le cinéma... comme tout le monde, comme on le voyait à la télévision ou au cinéma avec les films de Spielberg ou les choses comme ça. Et j'ai eu quelques grands changements dans ma perception du cinéma en découvrant les films de Andrei Tarkovsky et aussi un autre russe qui s'appelle Sokourov, qui m'ont montré, enfin, où d'un coup j'ai expérimenté que le film était le lieu d'une expérience qui n'était pas purement narrative, donc d'adhésion au personnage et à ce qui va lui arriver et à suivre les péripéties, mais d'une vraie expérience émotionnelle, esthétique et spirituelle. Et ça, je l'ai découvert avec Stalker de Tarkovsky, où d'un coup, je comprenais qu'en fait, le film était un prétexte pour explorer autre chose et qu'il laissait beaucoup, beaucoup d'espace aux spectateurs pour y investir ses propres émotions. Et ça a changé ma manière de voir le cinéma, oui.
C'est plutôt l'aspect d'un cinéma contemplatif, en quelque sorte. Moi, je pense à Sokourov je ne sais plus le titre de ce film, où c'est un plan-séquence d'une ferme dans une espèce d'aurore ou de crépuscule.
Il y a mère et fils, il y a mère et fils qui est comme ça, où c'est un fils qui va accompagner sa mère jusqu'à la mort. Et il marche, et il y a beaucoup de voix, et puis l'image est très travaillée, donc on ne sait plus trop si on est dans le réel ou le rêve. Et c'est vrai que le cinéma est un lieu génial pour plonger dans une autre réalité.
Un plan séquence qui dure presque trois quarts d'heure, je crois. Donc, avec une musique de Beethoven,
ouais,
il me semble.
C'est ça. Moi, j'ai fait des études d'ingénieur avant de faire du cinéma. Pendant mes études, il y avait un philosophe de la technique qui est décédé il y a quelques années, qui s'appelle Bernard Stiegler, qui est un philosophe de la conscience, beaucoup. Il nous parlait beaucoup de cinéma, parce que pour lui, le cinéma marchait comme la conscience. C'est-à-dire, on accumule de l'expérience et on va la projeter sur ce qu'on va voir. Et chaque chose qu'on voit n'est que nourrie de ce qu'on a déjà vu. Et c'est vrai que cette parole m'a aussi beaucoup accompagné de le cinéma, c'est l'expérience de la conscience.
Une dernière question, peut-être saugrenue, souvent un film qui marque, produit aussi de pâles copies parfois, ou peut-être inspire à une nouvelle vision ou à un nouvel accès à l'expression cinématographique. Est-ce qu'on pourrait envisager, suite à ce succès de ce montage effectué à Die, de voir peut-être d'autres équipes de films venir sur le Diwa pour monter ou autre chose ?
On a la chance à Die d'avoir, et dans tout le Diwa, d'avoir un grand pôle de personnes qui font du cinéma. Donc moi, à la rentrée, j'avais travaillé à Saillant avec un réalisateur qui vit entre Marseille et Saint-Nazaire-le-Désert. Donc on a monté le film à Saillant. Il y a un tournage cet été d'un court-métrage d'une personne qui s'appelle Lola et qui habite à Die. Il y a Guillaume Braque qui habite à Aurel et dont le film sort aujourd'hui, enfin ce soir en avant-première, mardi soir en avant-première, mercredi au cinéma, qui est un cinéma documentaire qu'il a tourné au lycée de Die. Donc il y a une vingtaine de personnes, mais qui sont très investies. Là, vous citiez ce film qui va sortir bientôt, qui a été tourné par un couple de cinéastes qui vit à Marignac. Le titre m'échappe. Je ne suis pas avec vous, qui a été tourné dans un hôpital psychiatrique à Cadillac, en Gironde. Donc on a comme ça beaucoup, beaucoup de chance. Et c'est vrai que plusieurs les gens, forcément, comme on est là, d'autres arrivent.
Suite à ce César du meilleur montage, vous avez eu peut-être plus de contacts.
C'est marrant parce que j'ai eu tous les échos. J'ai eu les personnes qui m'ont dit « tu vas voir, ton téléphone va sonner non-stop ». Et d'autres qui m'ont dit « tu vas voir, il y a un effet César. Quand tu as le César, plus personne t'appelle parce qu'on pense que tu es trop cher ». Et donc pour l'instant... Alors, j'ai déjà des films donc je sais ce que je fais dans les mois à venir, donc je n'ai pas d'inquiétude par rapport aux coups de fil. Pour l'instant, j'ai eu quelques coups de fil, mais on ne peut pas dire que c'était le côté « le téléphone sonne tout le temps ». Je pense même j'ai une petite... Je suis ravi d'avoir eu le César, c'est génial, mais j'ai même une petite inquiétude que les films que j'aime faire se racontent que maintenant je coûte trop cher.
Pour finir, je reviens à ma première question. Quelle était cette émotion lors de votre lors de votre annonce de nom ?
Il y avait des grandes monteuses et monteurs en face de moi pour cette année, notamment la monteuse de Jacques Audiard pour Emilia Pérez, où il y avait le monteur de L'Amour Ouf, qui sont tous les deux des très très bons monteurs. La monteuse de Emilia Pérez, moi, j'ai souvent regardé comment elle travaillait pour m'inspirer. Donc, avant d'arriver à la cérémonie, je m'étais raconté, mais oui, bien sûr, je l'ai, c'est sûr. J'avais envie de profiter du moment. quand je suis arrivé à l'Olympia à Paris et que j'ai discuté avec elle, puis il y avait tout le milieu du cinéma, d'un coup, ma confiance en moi s'est un peu effritée et je me suis dit non, mais c'est bon, tu laisses passer les grands, là, Juliette Veppling, la monteuse de Audiard, elle l'a eu 5 fois, elle a été nommée 14 fois, c'est un peu Teddy Riner du montage. Voilà, c'est, je me suis dit bon, bah, c'est normal. Et c'est vrai que quand mon nom est sorti, j'ai eu un petit moment d'absence, de ne pas comprendre en fait que c'était, que en fait c'était moi. Et donc du coup, il y a plein de choses qui se passent en même temps, à la fois une émotion immense, puis il faut monter sur scène, il va y avoir un petit moment de discours, il y a tout le milieu du cinéma qui est là, puis les gens derrière la télé aussi, les spectateurs et tout. Et j'ai eu besoin, quand je suis monté sur scène, de pas parler tout de suite. Et je suis resté silencieux un petit moment, le temps de reprendre mes esprits, de redescendre un peu sur terre. Et c'était très fort, parce que déjà, je pouvais voir la salle et puis sentir un peu le moment. Et puis, les gens ont vu qu'il me fallait un petit peu de temps pour revenir dans mon corps. Et donc, on commençait à applaudir pour me dire « Allez, tu peux y aller ». Et c'est vrai que c'était génial parce que du coup, j'avais préparé, moi, je m'étais un peu préparé histoire de ne pas être complètement angoissé de ça. Donc, j'ai dit ce que j'avais à dire et que je trouvais sincère et important. Mais j'étais comme là et pas là à la fois, quoi.
Xavier Sirven, l'émission se termine. Peut-être une suggestion musicale pour finir cette émission ?
Ah oui, j'écoute avec grand plaisir le nouvel album de Panda Beer, qui s'appelle d'ailleurs Panda Beer, je crois. C'est le nouveau, c'est quelqu'un qui faisait partie du collectif Animal Collective, entre musique électronique, avec parfois plus de hip-hop, plus de choses expérimentales. Le nouveau Panda Beer est génial.
Eh bien, nous finirons avec lui. Et je vous remercie, Xavier Sirven, d'être venu sur RDWA pour nous parler donc de ce prix du meilleur montage pour le César 2025.
Avec plaisir.
Bonne journée, au revoir.
Également.